Écrivain, conteur et éditeur, Roger Lagrave a choisi ses plus belles pages. Les contes et récits de Florac, c'est tout de suite sur Radio Bartas.
Ça fait longtemps déjà que nous traînons la galère dans cette zone que l'on dit à risque, quelque part dans la banlieue parisienne. Mohamed, dit Momo, le seul véritable indigène de cette banlieue où il est né, où il a grandi sans jamais en sortir, sans même aller voir la Seine qui coule, paraît-il, au bout de l'avenue. Bobo, appelé ainsi parce qu'en provenance de Bobo Dioulasso, quelque part en Afrique. Fernand, dit Nanan, pour ses amis que nous sommes. Et moi, qui vous raconte. Nous avons grandi dans le même couloir de notre HLM, sous les mêmes boîtes à lettres déglinguées, à monter les étages par un ascenseur pourri, sur le goudron devant l'immeuble à taper le ballon. L'école primaire, puis le CEG, le collège. Là, nous nous sommes aperçus que notre prise à deux plots ne pouvait se brancher sur la prise à trois trous que nous proposait l'école. L'histoire de l'armée française à travers les âges, la géographie de pays lointains où nous ne mettrons jamais les pieds, des écrivains remplissant des pages et des livres alors que nous ne lisons que des BD, lorsque nous en trouvons dans les poubelles du quartier, le contact était nul. À la veille de nous présenter à l'examen final, nous avons déserté pour nous retrouver tous les quatre, libres de chômer, libres de galérer, sans espoir. Souvent, quand tombe la nuit, on se retrouve au bas de l'immeuble à tchatcher, à nous raconter les riens de la journée, les vides de nos vies. Momo, qui a repéré une mob presque neuve et qu'il voudrait emprunter, rien que pour s'évader de cette zone où nous commençons à moisir, à nous faire engueuler par nos vieux parce que nous glandons par les voisins que nous empêchons de dormir, Bobo dit qu'il a un ticket pour une fille, mais c'est une maghrébine. Alors, danger avec le frère surveillant de la sœur. Une maghrébine, tu te débines. Bobo dit que ça pourrait être le début d'un rap. Il n'y aurait plus qu'à poursuivre en développant le thème les problèmes affectifs du jeune banlieusard au chômage et qui cherche une compagne. On y pensera, on se mettra au boulot, demain. 7 heures du soir, entre copains, à nous raconter nos existences sans avenir, finalement, c'est le meilleur de la journée, blême comme notre HLM. C'est au cours de l'une de ces heures que Fernand commença à nous raconter une planète qu'il appelait Lozère. Là-bas, disait-il, il y a des arbres, de pleines forêts, de l'eau qui coule claire dans les ruisseaux, des vaches dans les prairies où poussent des fleurs, des oiseaux dans les branches. En silence, chacun dans sa tête, nous rêvions de cette planète se levant lentement sur nos horizons comme un soleil à l'aube. Fernand, continue ton histoire, raconte-nous la Lozère. Et chaque soir, Fernand tisser son compte. Il n'y a pas de grande surface, mais dans les forêts, tu trouves des champignons, des pommes dans les pommiers, des châtaignes sur les pentes, et tu n'as rien à payer. Et pas de vigile à te poursuivre parce que tu ramasses des escargots ou des prunes. Pas de police ? Pas un pet. Qu'est-ce qu'elle ferait, la police ? Tu ne vas pas piquer la vache du voisin. Dans tout le pays, pas un seul feu rouge. Peut-être un ou deux, pas plus. Un pays sans feu rouge. Une telle planète pouvait-elle exister? Elle n'était pas de notre galaxie. Fernand savait tout cela parce que ses parents étaient de ce pays, la Lozère. Son père et sa mère en étaient, venus fraîchement mariés pour prendre en gérance un bistrot charbon en gros et rouge dans notre banlieue. Il y était né, avait grandi derrière le comptoir parmi les postrons, client de papa-maman. Mais à l'entrée de l'été, ses parents le mettaient dans le train en partance pour là-bas, vers le sud. Après une nuit de voyage, Fernand se retrouvait parmi ses grands-parents, le papé et la mamée, comme il disait, avec les vaches et les poules, à aider la grand-mère à nettoyer la salade, à tourner la roue de grès pour aiguiser la faux du grand-père, à poursuivre les moutons, à décrocher les poires. Il la connaissait donc, la Lozère. Et c'est elle qui nous racontait un épisode après chaque soir, le cul sur les marches de l'escalier. Des montagnes partout. Tu montes, et quand tu es en haut, tu es dans le ciel avec les oiseaux. Et Momo, et Bobo, et moi, nous rêvions de ce pays inconnu où le prof du CEG avait oublié de nous présenter. On se voyait, la petite troupe des copains, attaquer les pentes, parcourir les forêts, plonger dans l'eau fraîche des lacs. J'en ai vu 5 pas loin l'un de l'autre, comme de grands miroirs posés à terre. Et tu peux t'y baigner, même à poil si tu veux. Il n'y a personne pour te regarder. Se baigner nu dans un miroir. Une fois, j'ai vu passer un troupeau de moutons. Il y avait plus de 1000 bêtes, avec des pompons de laine sur le dos et faisant de la musique avec les cloches attachées à leur cou. Les bergers ont dit qu'ils allaient passer l'été sur les montagnes et dormir à la belle étoile, comme les cow-boys. Arrête, Fernand, tu nous fais trop rêver. Comment tu l'appelles déjà, ce pays ? Mon grand-père dit que c'est la Lozère. La Lozère, tu crois que nous irons un jour dans ce pays sans police, sans feu rouge, rempli de forêts et de ruisseaux, de grands-pères conduisant leurs vaches à la fontaine, de grands-mères remplissant des pots de confiture? On pourrait toujours rêver, ça ne coûtait rien, et ça finirait gentiment la journée. Cependant, à force de rêver, une idée germa dans nos têtes, sans cervelle, une idée qui se développa, grandit, et finalement occupa le vide de nos crânes. Et si nous y allions dans ce paradis? Pas de boulot, pas de copine, pas d'avenir. Si nous ne gagnons rien, nous n'aurions rien perdu. D'autant plus que là-bas, nous pourrions faire un jardin avec des pommes de terre et des carottes. Pour la bouffe, nous aurons toujours la salade et la soupe. Avec 4 poules, nous aurons des œufs. Avec 2 chèvres, du lait et du fromage. Il ne nous manquera que le ketchup. Là-bas, fini les reproches des parents, terminé les soupçons des uns et des autres, comme si tu voulais une môme chaque jour. Ça y est, nous étions partis vers la planète Bonheur, vers le Pérou en France, vers la Lozère. Il nous fallait maintenant nous renseigner sur l'itinéraire à suivre pour arriver à bon port, le port de notre salut. Je fus chargé de cette recherche. C'est à la porte d'Italie que nous avons pris la route pour le grand voyage, chacun avec son baluchon. Fernand a dit le mot de passe, Florac, bistrot de la zone, place de la mairie. Dans la caisse de celui qui allait visiter son beau-frère à Issoire, dans la bétaillère du maquignon se rendant à la foire d'Ambert pour y vendre un cochon, sur le tracteur du paysan allant dans les champs avec un chargement de fumier, après 4 à 5 jours d'autostop à travers l'Auvergne, par des routes qui semblaient désertes, le miracle fut accompli. Nous étions tous les 4 à boire notre bière au bistrot de la zone, à Florac. Des histoires à raconter plein la tête. Où on crèche cette nuit? Où crèchent tes vieux? Faut-il leur signaler que nous sommes là? Les vieux, comme disait Bobo, les grands-parents de Fernand, habitaient une petite ferme à 2 km de Florac, un hameau, Saint-Julien-les-Prunes. « Eh bien, on y va !» commanda Momo. Et nous y allâmes à la queue leu-leu par un chemin qui longeait une rivière. La miminte nous apprit Fernand. Deux qui furent étonnés de nous voir arriver sans tambour et trompette, ce furent le papé et la mamée. 4 d'un seul coup, c'était une belle surprise. Fernand fit les présentations. Le papé, qui voyait un Africain de près pour la première fois, toucha le bras de Bobo pour s'assurer que la couleur tenait bien à la peau, qu'elle était garantie grand teint. « Ce n'est pas tout, dit-il, le grand-père. Il faut vous loger maintenant. » C'était un problème dont on ne voyait pas la solution. Puis, une étincelle subite traversa le chapeau du grand-père, le chapeau qu'il n'ôtait jamais, pas même durant les repas. La clède. Fernand, l'enfant de la maison, assura la traduction. Une clède. C'est un petit bâtiment construit en pierre sèche dans la châtaigneraie où l'on enfume les châtaignes pour les faire sécher. Au rez-de-chaussée, on entretient un feu faisant beaucoup de fumée. Au premier, sur une clé de bois, on étale une bonne couche de châtaignes fraîchement ramassées. Durant 2 ou 3 semaines, la fumée traverse la clé, la couche des châtaignes qui sèchent lentement et peuvent alors se conserver durant l'année. Autrefois, on mangeait des châtaignes le midi et le soir. Aujourd'hui, elles ne sont plus à la mode. Elles font péter, dit-on. Les châtaigniers ne sont plus entretenus. Les sangliers mangent les châtaignes et les clèdes sont abandonnées. J'en ai une pas loin d'ici, sous les arbres et près de la rivière. Nettoyez et aménagez, vous serez très bien, en attendant de trouver mieux. Fernand nous conduisit à la clède. Une petite maison, en effet, au toit à deux pentes couvert de losses de schiste. Momo poussa la porte. À l'intérieur, il faisait noir comme dans le cul d'un nègre qui a mangé de la réglisse, plaisanta-t-il. Le sol était recouvert de cendres, de branches de genêt sèches, de charbon de bois, souvenir des activités lorsque la clède était utilisée. Éclairé par une ouverture que fermait une porte de bois et un trou dans le mur, l'étage n'était guère plus encourageant. « Putain, il y a du boulot !» constata Bobo. « Il y a du boulot, mais à quatre, il devrait se faire !» Et c'est alors que nous vîmes une chose inimaginable, Momo au travail. Lui qui laissait la cuisine et la vaisselle à ses sœurs, lui qui n'aurait pas touché un balai, voilà qu'il se mit au travail à l'aide d'une pelle qu'il trouva dans un coin. Il évacua tout ce qui encombrait la pièce de bas. À son exemple, nous n'avions plus qu'à l'imiter. En un tour de main, disparurent les toiles d'araignée et les feuilles mortes que le vent avait accumulées là, furent expulsés les lérots qui se croyaient chez eux. En bas, nous allons mettre une table et quatre chaises. Un camping-gas, une chaise, ce sera notre kitchenette. En haut, quatre matelas et ce sera la chambre. Le grand-père, qui nous regardait faire d'un œil sceptique, vint à notre aide. Provisoirement, vous prendrez la table et les chaises du jardin. Pour les matelas, il faut chercher dans les chambres, il doit y en avoir un supplément. Lorsque la nuit arriva, notre nouvel HLM de l'avenue des Châtaigniers, dans cette banlieue de Florac en Lozère, était utilisable pour cet été qui s'annonçait rempli de grands événements. Nous passâmes cette première nuit lozérienne dans la musique que faisaient les ramures des châtaigniers dans le vent par-dessus le toit. Au milieu de la nuit, Momo se réveilla. « Tu entends ?» Je prêtai l'oreille. « Non, je n'entends rien. »« Justement, ce silence me fait peur. » C'est vrai que nous n'avions guère l'habitude à un tel vide des oreilles, comme on l'entend dans les cimetières. Nous nous y habituerons. Le clairon d'un coq du voyage nous mit sur nos pieds, prêts pour une nouvelle journée sur la planète qui devenait la nôtre. « C'est pas tout, » dit le grand-père, tandis que sous la treille, près de la fontaine, nous déjeunions des tartines de confiture de la grand-mère. « Il va falloir travailler. Quatre gaillards comme vous ne peuvent pas rester sans rien faire. » Pour l'homme du pays qu'il était, il y avait deux sortes d'individus. Ceux qui ont envie de travailler et qui travaillent, des personnes normales à respecter, et puis ceux qui n'ont pas envie et qui n'en poussent pas une rame, glandant souvent au bistrot de la zone. C'est que le papé, il avait vu arriver, après le charivari parisien en 1968, ces vagues de jeunes venus de la ville, vivant en communauté, garçons et filles, se baignant nus dans les gardons, croyant qu'ils allaient vivre de champignons, de chanteilles et de thé à l'invoquant Chrisma. Les hippies, comme disait la grand-mère. Et il les avait vus arriver et puis repartir, pour la plupart, comme partent les hirondelles à l'approche des premiers froids. Il n'aurait pas voulu que l'on dise dans le village qu'il hébergeait des hippies à ne rien faire. Travailler, d'accord, mais quoi faire? Aucun CAP, même pas le brevet élémentaire. Le grand-père nous soumet une idée. Dimanche prochain, c'est la fête de la commune. La vôtre, comme nous disons. Les uns jouent à la pétanque, les autres discutent entre eux en mangeant de la fougasse. Le soir, on se retrouve autour d'une paella géante que nous confectionne un Portugais venu dans le pays il y a quelques années pour y être maçon. Cette année, pas de paella, le Portugais est parti en vacances. Vous pourriez le remplacer et nous faire cette paella. Une paella, non, mais un couscous peut-être, dit Momo. J'appris de ma mère qui est la reine du couscous royal. Que te faudrait-il? Du couscous, mais ensuite? Des légumes, carottes, poivrons, navets, tomates. J'en ai plein le jardin. Des poulets. Je veux bien en sacrifier quatre de mon poulailler, avec quelques pigeons. À l'aide de son portable, Momo appela sa mère restée dans la banlieue pour lui dire qu'il était bien arrivé, qu'il allait bien, qu'il faisait beau et qu'il lui fallait la recette du couscous. Par les airs arrivèrent les ingrédients, les proportions, les temps de cuisson pour la confection d'un couscous digne d'un sultan. Et sous la direction de Momo, expert en couscous, nos quatre nouveaux venus se mirent à l'épluchage des légumes, à l'entretien du feu, se pliant aux proportions indiquées, n'oubliant ni les pois chiches, ni la rissa, observant à la lettre les prescriptions maternelles. Le jour de la fête votive, le couscous fit une entrée remarquée. Rouge comme un poivron, comme le poivron qui trônait au sommet de la montagne de Semoule, resplendissant une énorme gamelle, remplissant une énorme gamelle, Fernand présenta ses copains en même temps que le couscous. En mêlant quelque peu verbes et adjectifs, il expliqua pourquoi il était là, raconta l'envie dans les quartiers d'où il venait, le bruit, la pollution, l'insécurité. Chacun l'écouta avec sympathie. Certains l'approuvèrent, d'autres restèrent sceptiques. On verra bien. Si vous avez besoin d'un outil, d'une aide, demandez. Fernand et ses amis furent longuement remerciés pour leur couscous vraiment royal. Les fêtes, même celles de nos modestes villages, ont toujours un air de nostalgie lorsque l'accordéoniste envoie les derniers accords de sa boîte à chansons, lorsque chacun rentre chez soi en pensant au travail qu'il faudra entreprendre le lendemain. Il en fut de même parmi nos néo-sévénols. Et demain, que faire ? Votre couscous a été apprécié. Ceux qui s'en sont régalés vont en parler à leurs parents, à leurs amis des villages voisins. Je suis sûr que l'été prochain, chaque comité des fêtes va vouloir son couscous royal, clou de la fête votive. Cependant, ne croyez pas que je vais vous fournir poulet et jardinage chaque fois. Les propos du grand-père avaient été compris. Pour les courgettes, les tomates, les poivrons et même les pois chiches, nos amis créèrent un jardin en agrandissant celui du papé et se firent jardiniers sous les conseils très heureux de se rendre utile et de trouver dans cette aventure de nouvelles jeunesses. Pour les poulets, ils créèrent un poulailler. Pour les pigeons, un pigeonnier. Bêchés, épérés, fumés et puis semés, repiqués et sarclés, arrosés, les travaux horticoles les occupèrent tout l'hiver et le printemps. À l'entrée de l'été, ils étaient prêts pour la saison festive. Stock de semoule acheté sur un prêt accordé par la mamée, légumes, fèves, volailles. Et c'est ainsi que nos amis s'insérèrent dans la société locale grâce à leurs prestations gastronomiques, gagnant par là les 4 sous nécessaires pour que continue leur aventure lozérienne. Aujourd'hui, Momo, Bobo, Fernand et moi, nous ne sommes pas riches. Nous avons même, durant ces 3 dernières années, connu la galère, obligatoire pour ceux qui veulent faire leur trou dans ce pays qui ne vous propose que du travail à produire de la réalité, de la vérité vraie. Au CEP de Florac, rue Célestin Freinet, nous avons fait un stage rémunéré pour apprendre la mise en boîte de notre couscous sévénol. Pour sa commercialisation, nous avons créé une CARL avec marque déposée, le couscous royal des Cévennes. Fernand en est le directeur général, tandis que je suis le directeur commercial. Nos boîtes s'alignent aujourd'hui sur les gondoles des grandes surfaces du département. Nous comptons attaquer sous peu le marché européen et peut-être même le marché international. Momo se voit un PDG pour le Maghreb et annexe, et peut-être ouvrirons-nous un site informatique pour la vente en ligne. En attendant, il nous faut agrandir le jardin, développer le poulailler. Demain, il nous faut mettre en culture le terrain que nous avons loué aux voisins et y apporter le migou acheté à un berger transhumant sur le mont Lozère. Dans ce pays où il ne se passe pas grand-chose, vous ne vous ennuyez pas ? Demandent les touristes visiteurs du jardin. S'ennuyer, on n'en a pas le temps. Pour leur faire remarquer Fernand. Cette nuit, des tags ont éclaté sur les murs de Florac. Nous ne sommes pour rien, parole, la vérité si je mens. Des tags, nous avons fait notre contingent sur les murs de notre HLM, sur les pentes des ascenseurs, sur les portes des ascenseurs, sur les boîtes aux lettres, sur toutes les surfaces propices. Dans une vie antérieure, quand nous étions des sauvageons dans notre banlieue, c'était pour montrer que nous existions, malgré que nous ne faisions pas grand-chose, pour nous exprimer alors que personne ne nous demandait de nous donner la parole. Ces signes à la va-vite, ces alphabets clandestins, la seule réalisation dont nous étions capables. Aujourd'hui, c'est fini pour nous. Nous réaliser la belle courge tout arrondie de soleil, c'est la gloire de Fernand. La couvée de poussins piaillant derrière la mère poule, la fierté de Bobo. De vraies réalisations nées de notre travail. Notre expression, non pas quelques signes cabalistiques qui salissent les murs et agacent les gens, mais notre production lorsqu'elle s'aligne en boîte serrée sur les gondoles chez Carrefour. Pour aller dans les communes où les commandes nous sont faites, nous avons acheté un VTT avec une remorque pour le transport du matériel. Sur nos vélos, nous avons longé le Tarn jusqu'au pont de Montvert, la Mimente par Cassagnas jusqu'au col de Jacrest. Nous avons appris par le mollet qu'il y avait trois vallées se rejoignant à Florac et de constituer un pays, le pays de Florac. Peu à peu, d'une course à l'autre, il nous entre dans la peau. Dans la banlieue, nous ne pouvions guère aimer le béton dont elle était faite. Ici, des rivières, des forêts, des montagnes, des villages, avec leurs habitants, c'est autre chose. Et nous rions lorsque Bobo, tout noir qu'il est, se déclare Cévenol comme s'il était né à Saint-Frézel de Ventalon ou à Saint-Germain de Calberte.